C'était une compétition importante pour Alex Hervieux parce que c'était sa dernière grande compétition. Ça se passait pour le championnat du monde en Autriche de ski de fond. Alex Hervieux qui a pris le 12e rang. Et là, la prochaine épreuve, ça se passera du côté de Québec. Et par la suite, ça sera la retraite pour Alex Hervieux. Son père, Pierre, a assurément suivi la compétition. Il est avec nous. Pierre Hervieux, bonjour.
Oui, bonjour.
Bon, comment vous avez vu ça avec un pincement au cœur, j'imagine, cette compétition d'Alex Hervieux?
Oui, un petit pincement, mais aussi un peu une libération. Ça fait longtemps qu'Alex s'entraîne. Il est parti de la maison presque 8 à 10 mois par année. Pour moi, je me dis, c'est rendu le moment de passer à une autre étape de sa vie, là, de faire autre chose. Mais en passant, il reste encore quand même deux fins de semaine. Là, la fin de semaine prochaine, il est en Norvège pour un autre 50 km. Puis il y a deux courses samedi, dimanche. Puis ensuite, c'est en Suède. Donc, il reste encore quand même 5-6 courses d'ici la fin de la saison, mais c'est la dernière saison, ça, c'est sûr.
On le sait, Alex avait remporté ce 50 km-là. Écoute, c'est un accomplissement incroyable. Quand on s'amène à une épreuve qu'on a déjà eu beaucoup de succès, j'imagine que les attentes étaient élevées pour votre fils, Alex Hervieux.
Oui, c'est sûr que son rêve, c'était de répéter ce qu'il a fait il y a 2 ans. Mais être champion du monde, là, ça t'arrive pas 50 fois dans ta vie. Là. Ça arrive 1 à 2 fois quand t'es super bon. C'est pas, on peut pas s'attendre à être champion du monde à chaque fois qu'on prend le départ d'une course. Là. Sinon, ce serait un sport où le niveau de compétition est peu élevé. Puis là, c'est toujours les quatre mêmes qui gagnent, mais c'est pas le cas du ski de fond. Puis ce qui va un peu qui a rendu la course plus difficile pour Alex, sans être une excuse. C'est qu'il était tout seul de Canadiens en tête. Il y avait d'autres Canadiens qui faisaient la course, mais il n'était pas à côté de lui pour l'appuyer parce qu'on connaît un peu le vélo, le cyclisme. Celui qui gagne le Tour de France, là, il n'est pas tout seul. Il prend une équipe autour de lui parce que quand il y a un Norvégien qui part en échappée en avant, il faut avoir des coéquipiers qui vont à la chasse pour le ramener. Alex, lui, ne pouvait pas aller à la chasse de chaque skieur qui allait essayer de s'échapper du peloton. Sinon, il s'épuise, puis à la fin, il n'y a plus d'énergie. Donc, c'est un peu le manque d'équipe qui l'appuie. L'année dernière, la dernière fois, il y avait Devin Kershaw qui était avec lui tout le long de la course, qui l'aidait. Puis, donc, c'est quand même un élément là, important. Là. Quand tu cours un Canadien contre 4 Russes puis 4 Norvégiens, c'est difficile pour le Canadien. Les coéquipiers comptent.
Et d'autant plus que le Norvégien qui a gagné, Hans-Christian Olund, écoute, on a l'impression qu'il était dans une autre ligue cette journée-là, avait une avance incroyable. Avez-vous déjà vu ça, un compétiteur avoir autant d'avance que ça?
Oui, mais c'était stratégique. C'est qu'au début de la course, là, c'était quand même, les coureurs n'étaient pas à fond. On voyait que c'était un rythme là, très confortable. Puis là, tout d'un coup... Lui, il a poussé une accélération, puis c'est comme si personne a réagi. On l'a laissé partir. Puis là, après quelques kilomètres, il avait 30 secondes d'avance, puis ça s'est monté à 45 secondes d'avance. Puis ensuite, les Russes ont appliqué une super bonne stratégie. C'est qu'à peu près autour du 30e kilomètre, les trois quarts du peloton ont arrêté pour faire le changement de ski. Mmh. Mais les 4 Russes, eux, il y avait une stratégie entre eux. Ils se sont dit, bon, quand ils vont arrêter, nous, on continue. Puis, ils ont réussi ce court laps de temps-là, parce que eux, ça leur prend peut-être 15 secondes, arrêter, changer les skis et repartir. Mais là, les Russes ont pris une petite avance. Puis, c'est là que Bolchunov a réussi à s'échapper, puis se rapprocher de Olund. Il a terminé peut-être à 15 secondes derrière lui. Donc, c'est l'ouverture, là, quand le peloton, l'ensemble des coureurs, pratiquement tous les coureurs ont arrêté au même endroit, mais les Russes, ils ont eu une bonne tactique, puis ça a porté fruit.
On s'entretient avec Pierre Hervé, évidemment, le père d'Alex Hervé, qui a terminé au 12e rang lors du championnat du monde, le 50 km départ groupé. Monsieur Hervé, évidemment, du côté de l'Autriche, on a vu, il y a eu un scandale, il y a eu des arrestations, un réseau de dopage qui a été démantelé. On a même vu un athlète en train de se faire une transfusion sanguine. Est-ce que ça nous reste dans la tête quand on voit les compétiteurs qui évoluent avec Alex?
Bien, c'est sûr que c'est présent depuis des générations. Hein? Le dopage puis la tricherie, ça existe partout. Dans le sport, c'est présent aussi. Moi, dans mes années 70, les cyclistes, c'était la même chose. C'était du blood doping. En ski de fond, moi, aux Olympiques, je terminais 16e, puis la semaine suivante, en Norvège, je gagnais 50 km avec les mêmes athlètes sur la ligne de départ. Ça dure pendant une semaine, le bloc doping. Ensuite de ça, tu redeviens normal. Donc, on l'a vu aux Olympiques l'année dernière encore avec les Russes qui étaient sur le, qui étaient dans les trois premiers à toutes les courses. Puis cette année, les Russes sont un petit peu moins bons. Mais malgré que Bolchunov est encore très, très fort, mais on voit des Russes qui étaient médaillés l'année dernière aux Olympiques. Cette année, ils finissent dans les 10, 15e, 20e. Mais ouais, c'est sûr que c'est triste de voir ça, mais des tricheurs, il y en a. Il y en a dans le sport comme ailleurs aussi.
De voir que 40 ans plus tard, c'est toujours la même chose, est-ce que c'est pas un peu décevant, ça?
Oui, c'est très, très décevant. Puis moi, c'est sûr que quand je vois le Comité international olympique, on voit les Russes qui trichent à Sochi, puis deux, trois ans après, on les réintègre dans le mouvement olympique. On dit on n'a pas trouvé de preuves suffisantes. Je trouve ça déplorable, moi. Puis ça motive pas les athlètes, c'est sûr, à pousser au niveau international lorsqu'on voit que c'est comme ça, mais il faut vivre avec. C'est un choix qu'on fait. Est-ce qu'on accepte de compétitionner sans être sûr à 100% que tout le monde est honnête? Je pense que c'est comme irréaliste dans la vie. Il y a peut-être rien de parfait. Donc, on le fait pas pour ça. On le fait parce qu'on veut se dépasser puis on veut pousser au maximum son talent puis voir jusqu'où on peut aller. Mais on sait que ça fait partie du métier, ça aussi.
Est-ce que ça, de voir les fondeurs tricher, est-ce que ça a pesé dans la balance pour Alex de mettre un terme à sa carrière?
Oui, un petit peu, parce que c'est sûr que c'est frustrant. Depuis qu'il est jeune, il a déjà fait un championnat du monde junior qui avait terminé 4e, puis au mois de juin, il a reçu une médaille par la poste. Donc, c'est pas la première fois de sa vie que ça se produit. Depuis 14 ans qu'il vit dans ce monde-là. Donc, il sait que ça fait partie du sport. Mais oui, c'est sûr que c'est un peu triste. Mais moi, je pense que ce qui fait que c'est le plus difficile pour Alex, c'est qu'il a perdu après les Olympiques l'année dernière. Les deux tiers de l'équipe des hommes ont quitté parce que c'est toujours pareil. C'est un cycle olympique de 4 ans. Et lorsqu'on est rendu à 28, 30 ans, puis qu'on se dit, ben là, moi, j'ai pas de chance de gagner une médaille au prochain jeu, ben les athlètes disent, bon, on va passer à autre chose, on va essayer de se trouver un métier, on va retourner à l'école pour finir. Ceux qui n'ont pas terminé leurs études ou qui n'ont pas d'études disent, bon, OK, là, c'est le temps de penser à une autre étape de ma vie, là.
Pierre Harvey, quand on regarde son fils, qui est maintenant le meilleur fondeur de l'histoire du Canada, qu'est-ce que ça fait quand on le voit prendre sa retraite?
Ben oui, c'est sûr que c'était un beau moment. Puis je suis très très fier d'Alex. Mais ce qui me fait de la peine un peu, c'est que ça peut prendre peut-être 10-15 ans avant de voir un autre Alex arriver, parce que des athlètes de ce niveau-là dans un sport comme le ski de fond, il y a beaucoup de sports amateurs qui sont pas tellement connus. Un peu comme il y a 10 ans, on connaissait pas beaucoup le ski de fond. Alex est devenu une grande vedette québécoise. On l'a supporté, on a parlé de lui beaucoup. Ça a été bon pour le développement du sport, mais j'espère juste qu'on n'aura pas à attendre trop longtemps avant de voir un nouvel Alex ou une nouvelle fille canadienne qui va performer, parce que ça motive toute la population, tous les jeunes derrière. Là. Le phénomène Alex Harvey, il est présent. Là. Moi, quand je vais au centre de ski de fond à Saint-Féréol, les fins de semaine, je vois le club, les jeunes qui s'entraînent, les compétitions provinciales partout au Québec, il y a eu une progression énorme là, dans les dernières années à cause d'un athlète comme lui qui motive les jeunes puis qui prouve que même si on est Québécois, on peut se battre avec les meilleurs au monde. C'est une motivation importante. Donc, moi, c'est ça que je trouve le plus triste. C'est pas pour Alex, c'est pour le sport. Parce qu'Alex, il a donné ce qu'il avait le goût de donner pendant une quinzaine d'années de sa vie, puis je pense que là, c'est assez. Là. De toute façon, ça vaut pas la peine d'essayer de faire ça encore pendant 10-15 ans, parce qu'il sait que là, il va, en vieillissant, les performances vont diminuer, puis il n'y aura plus de plaisir à faire ça. Le plaisir d'un athlète, c'est de s'améliorer constamment, puis la journée que tu sais que tu arrêtes de t'améliorer, ben là, le plaisir n'est plus là.
Pierre Harvey, qu'est-ce qui a fait qu'Alex a été le meilleur? C'est quoi la différence pour Alex Harvey?
Ah, c'est que... Il y avait une part de talent, mais c'était pas vraiment à 10 ans, à 12 ans, là, c'était pas le meilleur talent au Québec en ski de fond. C'est la la persévérance et le désir de s'améliorer continuellement, le désir d'être de perfectionner. Il faut être perfectionniste à répéter le même mouvement pendant 15 ans, puis à améliorer tout son corps, puis à être minutieux dans sa préparation, puis à être prêt à payer le prix dans le sens que quand il faut partir puis aller faire un 3 heures de ski à roulette dans la pluie au mois d'octobre, ben, à 5 degrés Celsius, il faut pas se demander si ça nous tente ou si ça nous tente pas. Il faut se dire, regarde, moi, c'est mon métier. Moi, je veux être le meilleur, dans les meilleurs au monde. Puis il faut que je fasse ça. Puis il faut que j'aie du plaisir à faire ça, à vivre là-dedans. Parce que ça fait longtemps là, qu'Alex, il part de la maison. Là. Il part à la mi-octobre, puis il revient à la fin mars depuis plus de 10 ans. Il n'est pas à la maison à Noël, pas à la maison au jour de l'an. C'est des sacrifices, mais pour lui, c'était pas des sacrifices, c'était du plaisir. Il faut aimer ça, il faut être passionné. Puis il y a des jeunes qui ont des super bons talents, mais qui leur manque des fois un petit peu cette passion-là.
Pierre Harvé, est-ce que vous avez dû lui apprendre ça ou il avait ça naturellement?
Ah non, moi j'ai rien appris. Il a appris par l'exemple. Moi, je suis pas une personne qui essaie de prêcher. En disant « tu dois faire ça, tu dois faire ça ». J'ai jamais... Mes 3 enfants ont fait de la compétition, puis ils ont tout fait ça, toujours fait ça, parce qu'eux, ils avaient du plaisir, puis quand ils avaient plus de plaisir, ils arrêtaient, puis ils faisaient autre chose. Mais non, c'est par l'exemple. Ils me voyaient partir, même si j'étais plus un athlète international, je continuais à tous les matins d'aller m'entraîner parce que j'ai encore du plaisir. J'ai 61 ans, puis j'ai encore fait... 4 heures de ski samedi, puis un autre 3 heures dimanche, puis j'ai encore du fun à faire ça. Là. Pour moi, c'est pas un devoir, c'est un plaisir. Puis je pense que ça, c'est un gros élément. Il faut aimer ça, parce que si on n'aime pas ça, c'est sûr qu'on peut pas durer si longtemps.
Mais Pierre Harvé, on aime toujours avoir la chance de vous parler. Gros merci d'avoir pris du temps pour nous. Et évidemment, de bons mots pour votre fils Alex Harvé. Merci beaucoup, Pierre.
Merci, ça me fait plaisir. Bonsoir.
Voilà, c'était Pierre Harvé, évidemment, qui nous parlait d'Alex, lui qui a terminé 12e lors du championnat du monde en Autriche pour le 50 km groupé. Voilà, c'est déjà tout pour les amateurs de sport. Un gros merci à Maxime P. Paquet à la mise en onde. Restez là, en retour, c'est Derek Aucoin qui s'amène pour Bonsoir les sportifs. En mon nom personnel et au nom de toute l'équipe, bonne soirée à notre antenne.